quoi. Et ça, c'est la dimension libertaire, quoi, de mai 68, qui effectivement concerne surtout des jeunes gens des classes moyennes supérieures, qui ont déjà compris que l'avenir, c'était pas les diplômes pour eux, mais plutôt le carnet d'adresse, et que ce qu'il fallait, c'était profiter au maximum des bénéfices des Trente Glorieuses, c'est-à-dire une société où tout va bien sur le plan économique, et où ils sont le. En fait, ils veulent jouir de leurs privilèges. Et là, on peut aller assez loin dans l'analyse, c'est qu'en fait, ils produisent une idéologie généraliste ou universaliste qui, en fait, s'adresse strictement à eux pour justifier moralement d'abuser de tous leurs privilèges, et sans ne rien rendre. C'est-à-dire que ce sont des consommateurs comment dirais-je, de survaleurs qui ne veulent pas l'avouer. C'est-à-dire ils veulent consommer sans rien produire, hein, si en termes marxistes.
D'ailleurs, ils demandent, en fait, c'est très intéressant de regarder l'un de leurs slogans principaux. Soyez réaliste, demandez l'impossible. Et ils sont dans une posture de demande, de revendication, de contestation. De ce point de vue, est vraiment, à mon avis, détestable et qui correspond à un certain état d'esprit qui règne encore aujourd'hui, à savoir l'irresponsabilité.
Parce qu'ils en ont les moyens, aussi,
faut le dire. Et parce qu'ils en ont les moyens, bien sûr, et on est dans une période, mai 68, milieu des Trente Glorieuses, où comme on le sait, la prospérité règne. Donc ça c'est pour moi, c'est une des postures fondamentales du 68art. Exiger avec une forme d'arrogance si vous voulez, les choses dont on prétend qu'on y a droit, qu'elles sont indues, sans nécessairement travailler pour les obtenir. Alors après, c'est difficile de dresser une liste de revendications. C'est justement ça qui est très intéressant. C'est pas le programme commun. C'est pas les je ne sais combien propositions du programme commun ou revendications du programme commun. C'est une espèce de gloubi-boulga de revendications très aléatoires, changeantes et aussi difficiles à clairement circonscrire. Un certain état d'esprit. Et c'est pour ça que c'est un mouvement anti-politique par excellence. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de véritablement sérieux. Il n'y a rien qui correspondent aux principes de la politique classique, à savoir un certain réel est présent, il nous est donné, il impose un certain nombre de conditions, on modifie le réel, dans la mesure du meilleur possible, on améliore le sort des gens, mais on ne prétend pas faire le grand soir. Les 68ards, pour un certain nombre d'entre eux, et en particulier, là, il faut distinguer le mai 68 des étudiants et le mai 68 des ouvriers. Les 68ards étudiants n'avaient pas de revendications précises, intelligentes, pertinentes, clairement circonscrites. C'était de vagues revendications, comme le disait Alain Soral, de jouissance immédiate.
Là, je voudrais quand même apporter une nuance.
Alain Soral, ouais.
C'est que ça a un sens profond sur le plan politico-économique, et c'est pour ça que ça a marché. C'est qu'en réalité, on est à la fin de la société capitaliste des biens d'équipement, hein, parce qu'on est parti de l'austérité d'après-guerre et on était dans une politique de consommation de biens d'équipement, c'est-à-dire de biens nécessaires, et on est en train de passer à ce que j'appelle, moi, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un philosophe qui s'appelle Kluskar, au capitalisme du désir, c'est-à-dire au marché du gadget, de l'inutile, fondé sur ce que Debord à l'époque appelle déjà société du spectacle. Hein. Et on a donc en réalité, la société marchande a besoin de changer le marché. C'est-à-dire qu'on passe du marché de l'utile au marché de l'inutile, du rêve, etc. Et donc il y a besoin que ce soit porté par une catégorie sociale, il y a besoin de mettre en place des slogans, et il y a besoin de mettre en place une nouvelle attitude. Et en fait, ce qui se met en place avec 68, c'est une nouvelle attitude de consommation qui va permettre la promotion et la diffusion de nouveaux produits qui sont déjà prêts, qui est les disques de pop musique, la chaîne IFI, les voyages organisés, le tourisme exotique, un certain marché de la sexualité, etc. Donc ça a un sens profond. C'est parce que mai 68 a gagné aussi pour ça, parce qu'il correspond aux besoins du marché et donc à la nécessité sur le terrain du profit, que ce profit puisse se renouveler en se trouvant des nouveaux marchés. Parce que là, on est dans une logique en fait du capitalisme qui est une fuite en avant. C'est comment continuer à produire du profit et pour ça, c'est toujours où sont les nouveaux marchés. Et on est sur ce marché du désir qui est prêt et qui est là et qu'il faut promouvoir. Et mai 68 a été l'énorme slogan publicitaire de promotion du marché du désir qui a donné tout ce qu'on voit aujourd'hui et qui donne à la fin Canal+, le porno, enfin ouais, le porno de Canal+. Il y a aussi à un moment donné la revendication de la libération du cinéma X, hein, la pornographie comme émancipation sexuelle, ce qui fait le marché de la pornographie qui va arriver derrière, parce qu'on part toujours de revendications d'élite avec un groupe d'élite avec des slogans assez qui s'appuient sur Sade ou Georges Bataille, et puis après on va vers les trucs de masse, c'est-à-dire le sex shop et l'Eros Center. Et en fait, mai 68, de ce point de vue-là, doit se comprendre complètement comme une nécessité qu'avait le marché de sortir de ce marché des biens d'équipement classiques un peu austères où on achète des casseroles et des aspirateurs, d'aller vers le marché du désir par la société du spectacle. Et mai 68, ces étudiants ont fait plus ou moins à leur insu un énorme spot publicitaire pour vendre ça au nom de la modernité, de la jeunesse, de la fraîcheur, etc. Et c'est là où mai 68 a gagné, quoi qu'il arrive. Hein.
D'où
la société du désir aujourd'hui, mais non pas d'un désir d'élite qui pouvait avoir un charme à l'époque, mais d'un désir de masse et d'un désir forcé qui va jusque où ça a donné effectivement l'île de la tentation, enfin cette pornographie de masse complètement répugnante qui à l'époque avait un peu les attributs de la fraîcheur quand même.
Il parle beaucoup de désir. Je pense évidemment à son ouvrage Misère du désir, hein, paru aux éditions Blanches, écrit par Alain Soral, où là aussi c'est des portraits, bon, style Soral, c'est-à-dire assez cru parfois, ou vitriol, mais en tout cas souvent drôle et toujours pertinent aux éditions Blanches, Misère du désir.
Ça explique cette mécanique
on va y revenir.
Société du désir, hein, ouais. Dans laquelle on est. Mais 68, c'est l'inauguration de la société du désir, qui était une avant-garde et une élite avant et une marginalité qui se massifie en réalité. Mais 68 est la fin quelque part d'un mouvement, pas le début pour moi. C'est-à-dire que c'est la massification d'un mouvement, d'une aventure d'élite et individuelle qui avait donné des choses très intéressantes aux États-Unis, en Angleterre, en France, dans le jazz, etc. Et à un moment donné, ça, via les étudiants, ça devient un truc de masse et un marché. Hein. Donc en fait, mai 68, c'est, pour moi, c'est même pas l'inauguration de quelque chose, c'est la massification, c'est la fin d'une époque qui est en fait, ce qui est plutôt les années 50-60, l'apogée est en 63 plutôt, et 68, ça veut dire que ça cesse d'être intéressant, puisque ça devient un truc pour étudiants, c'est-à-dire pour couillons, quoi.
Monsieur Grimpré.
Merci pour les étudiants. non, simplement deux remarques. Première, pour illustrer ce que dit Alain Soral, finalement, un des fruits les plus néfastes, puisque on peut également parler du domaine strictement économique, voire microéconomique, l'un des fruits les plus néfastes de mai 68, c'est le surendettement des foyers actuels, qui est dû non pas, comme le suggère Alain Soral, à la satisfaction des besoins élémentaires, des besoins fondamentaux, des besoins sobres, entre guillemets, mais bien plutôt à la consommation effrénée de chanifi, de consoles vidéo, etc.
De mode,
bien sûr, vestimentaire, et puis toute la mode des jeux vidéo.
Ça rappelle ce qu'était l'économie à l'époque, au niveau de l'économie du vêtement. On était quand même dans une économie, pas de la rareté, mais presque, où il y avait trois marques de plaques de chocolat, sinon ça s'appelait du chocolat suisse. Enfin, je veux dire, il y avait, d'un seul coup, il y a eu une explosion de l'offre. Avec de l'exotique, et puis on voit bien qu'aujourd'hui ça s'est prolongé même avec le bio dans les
et le altermondialisme.
C'est le début de tout ça en fait, hein, le marché de l'exotique, le marché du désir, le tourisme de masse aussi à travers la promotion des pays exotiques, enfin l'Inde, etc. On a mis en place tout un nouveau marché de l'exotique, du désir, de l'étrange. C'est même l'époque où une certaine droite de Louis Powell fait ce magazine qui s'appelle Planète. On s'intéresse à Krishnamurti. C'est là où le fils de Revel découvre le Dalai Lama, d'ailleurs. Vous voyez, donc il y a même toute une bourgeoisie qui est tentée par tout ça.
Hein. Deuxième remarque pour continuer là-dessus, c'est que en réalité, et c'est ça qui est un petit peu agaçant, quand on regarde ces événements à rebours, après coup, c'est que c'est le refus de la sobriété, en fin de compte. C'est l'excès comme praxis, l'excès comme posture politique, idéologique, culturelle. Et ça, ça va à l'encontre de ce qu'a certainement apporté, pour une bonne part, l'héritage judéo-chrétien et hellénique, à savoir la mesure, la sobriété.
C'est la bourgeoisie qui rompt aussi avec sa culture catholique. Hein.
Alors qu'on sait bien depuis, on le sait depuis même d'une certaine manière les présocratiques, on le sait depuis l'ancienne alliance et on le sait a fortiori depuis la révélation chrétienne, et bien sûr il faudra également parler des antiques et des post-socratiques, in medio stat virtus, c'est-à-dire que c'est le refus de ce qui est pondéré, de ce qui est assez raisonnable, de ce qui est sobre.
Et ce qui va entraîner quelque chose de très important, qui est la sortie de ce qu'on appelle le moralisme bourgeois, oui, qui était consubstantiel au capitalisme dit concurrentiel libéral, c'est-à-dire de l'entrepreneur honnête homme, qui produit réellement de la valeur ajoutée.
Et le capitalisme familial.
Oui, oui. Et cette idéologie de la transgression permet de passer au capitalisme financier dans lequel nous sommes aujourd'hui, parce que c'est sur l'immoralisme transgressif un peu littéraire, où c'est l'époque où on sort Bataille, Sade, etc. C'est sur cet immoralisme de gauche que va s'appuyer la nouvelle, ce capitalisme de droite aujourd'hui totalement immoral et financier, et qui est d'ailleurs est également apatride, c'est-à-dire qui voyage aussi dans le temps et dans l'espace, désincarné, et qui finira dans le paradis fiscal, la société offshore, vous voyez. Donc tout ça, je sais pas, ça n'a pas été pensé pour ça sans doute, mais c'est très cohérent tout ça. C'est-à-dire que la bourgeoisie, une certaine bourgeoisie s'est beaucoup amusée en 68, et effectivement, elle est partie d'une espèce de d'une sobriété catholique enraciné, où on allait en vacances chez les oncles et les tantes, où il y avait un rituel religieux qui était très respecté encore, hein. Moi je m'en souviens dans mon enfance, et d'un seul coup on s'est mis un peu à faire n'importe quoi, on en avait les moyens, et quelque part on a cassé une certaine bourgeoisie catholique française avec cet exotisme, ce délire, ce désir, car cette transgression, cette course à la transition s'est passée à l'intérieur de la bourgeoisie. Et c'est là qu'on a vu des divorces en chaîne, des patrons faire le tour du monde en bateau, il y a aussi des aventures individuelles marrantes, les histoires homosexuelles, la jeune fille qui veut avorter, qui ramène un noir à la maison, enfin c'était tous ces scénarios-là qui se sont passés à l'intérieur de la bourgeoisie française catholique.
Hein. Mais c'est pour ça aussi, là il faut sans doute un peu nuancer les choses, distinguer les choses, mais... c'est pourquoi moi je souscris absolument pas à la nouvelle pensée unique antilibérale qui est en train d'émerger, parce que bien souvent elle s'appuie aussi sur certaines réactions qui ont eu lieu pendant mai 68, à savoir nous ne voulons plus du capitalisme de papa, le capitalisme familial, paternel, nous ne voulons plus de Guizot. Moi je suis atterré quand je vois le télescopage des discours anti-mai 68 et le télescopage des discours anti-capitalisme du 19e siècle. Je fais ici référence au livre de Sébastien Lapacq, au dernier livre de Sébastien Lapacq, que je trouve complètement incohérent au plan intellectuel. On ne peut pas à la fois dénoncer mai 68, dénoncer cette grande évacuation du capitalisme familial, sobre, producteur de richesses pour tout le monde, la nation, les ouvriers, les patrons eux-mêmes bien sûr, mais aussi pour les ouvriers. Et donc dénoncer cette grande évacuation de la sobriété capitaliste, et en même temps dénoncer ceux qui ont été les pères d'un capitalisme raisonnable, familial, enraciné, c'est-à-dire ceux du 19e siècle, Guizot, etc.
Je peux me permettre l'arnaque, comme souvent, c'est que les 68ards ont prétendu liquider le capitalisme à la papa au nom de la révolution marxiste-léniniste. Et en réalité, ils ont liquidé le capitalisme à la papa pour le capitalisme financier transnational. C'est ce qui s'est passé historiquement.
Et ils y sont aujourd'hui.
Il faut toujours des bonnes raisons pour liquider quelque chose. Et l'énorme arnaque de 68, c'est ça. C'est que c'est des gens qui se prétendaient à la gauche du PC, plus révolutionnaires, c'est les Mao, les Mao Spontex, la GP, tout ce qu'on voulait, qui reprochaient en fait à la gauche de ne pas être assez marxiste, et qui finalement ont amené le néolibéralisme mondialisé, et qui en sont aujourd'hui d'ailleurs les chantres et les plus grands défenseurs, qui sont finalement terminés dans la pub, au CCA, dans la fausse sociologie, et qui ont mis en place tout le capitalisme financier et la consommation dite transgressive. Hein. Donc il y a eu une énorme arnaque, parce que finalement, ce capitalisme à la papa n'a pas perdu pour qu'on arrive à l'autogestion ouvrière. Parce que le seul qui a proposé l'autogestion à un moment donné, c'est De Gaulle avec son référendum qui proposait la participation, qui était quelque chose qui, à la limite, la seule proposition qui ressemblait un peu aux soviets. Ben, il a été viré, et avec lui, le capitalisme à la papa, pour arriver à là où on en est aujourd'hui, c'est à Sarkozy.
Et
c'est le début du Sarkozy.
Et l'autogestion règne dans certains milieux du capitalisme financier débridé, on le voit bien. On tutoie le patron, tout le monde est à U et à Dia, on travaille ensemble, on sort ensemble en boîte après, et quand il y a 5 milliards qui se baladent, on s'inquiète pas trop, quoi.
Alors, à nombreuses questions d'auditeurs et d'auditrices, pouvez-vous nous expliquer, assez diverses, hein, je vais faire dans l'ordre, je vous propose de prendre des notes et puis ensuite d'y répondre. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le mouvement La Gauche Nationale? J'imagine que c'est en direction d'Alain Soral. Et quelles sont vos relations avec d'autres tendances au sein du Front National? Pour savoir si une révolution était spontanée, nous dit une auditrice, ou manipulée, il suffit d'en observer les conséquences et à qui elles ont profité, en l'occurrence ceux qui voulaient déstabiliser l'Europe, qui se voulaient indépendante des États-Unis. Ainsi, on constate la croissance économique qui était celle du Japon, c'est-à-dire très forte, jusqu'en 68, puis elle s'écroule, comme ailleurs, notamment en France. Merci pour l'émission passionnante. Pensez-vous que mai 68 a été manigancé par les mondialistes? Anna Sora l'appelle les étudiants des couillons. Je pense que parce que ces étudiants manifestants ne sont pas de vrais étudiants.
Ça, c'est bien possible.
Oui, d'ailleurs, ils étaient étudiants en sciences molles, souvent, c'est-à-dire ils n'étudiaient pas grand-chose.
Hein. Et puis, alors, Cohn Bendit, en première année de sociologie, à mon avis, il n'a pas dû travailler grand-chose. Hein.
Alors ensuite, ça, c'est une question qu'on va traiter dans la deuxième partie de l'émission. Les chiennes de garde sont-ils dans la mouvance de mai 68? Quel est le rôle de la France? C'est illisible. Bon, on y reviendra. Que pouvez-vous nous dire de El Watan, un journal qui se dit indépendant et qui est véritable organe, je pense, algérien ou égyptien?
On voit du sujet, là.
Voilà. Donc, des questions, hein, je vous ai dit, qui brossent différents sujets. Alors, ce que vous avez noté sur V68 ou...
Au moins, il y a le sujet du mondialisme. Parce que il y a une thèse qui circule de plus en plus aujourd'hui et qui est assez crédible, c'est que quand même... Il y avait la volonté d'une certaine droite française qui souvent dans l'histoire collabore avec la puissance réellement hostile qui est la puissance anglo-saxonne de se débarrasser de Gaulle qui, je vous le rappelle, parce qu'ici il y a des gens qui n'aiment pas le De Gaulle de 68 mais qui depuis 64 a été sorti de l'OTAN, avait viré les bases américaines, demandait le retour à l'étalon or et avait même critiqué violemment Israël dans son discours de novembre 67. Et là, je crois que qui était aussi allé voir les Vietnamiens, qui avait vive le Québec libre, enfin qui essayait de remonter une espèce de France qui pouvait être une troisième voie entre l'URSS et les États-Unis et qui le faisait assez bien. Et je crois qu'il y a aussi tout un... Je crois qu'on ne peut pas comprendre mai 68 et l'incroyable liberté de nuisance qui a été laissée, notamment à Cohn-Bendit, sans des complicités très fortes à l'intérieur d'une certaine bourgeoisie installée, enfin je veux dire de gens très haut placés, qui se sont servis en fait de ça pour déstabiliser De Gaulle. Et d'ailleurs, De Gaulle, finalement, a été sorti par mai 68. Et immédiatement après, on a l'Angleterre qui rentre dans l'Europe, ce dont ne voulait pas De Gaulle, car il savait que le jour où l'Angleterre rentrait dans l'Europe, ce n'était plus une Europe puissance basée sur le couple Berlin-Paris, mais une Europe qui repasserait sous le contrôle inéluctable de la thalassocratie protestante américaine. Et il faut aussi comprendre, effectivement, la manière dont mai 68 a pu se développer incroyablement à partir de rien, c'est-à-dire que ça a été très peu réprimé, il n'y a pas eu un mort, enfin c'est à la fois un théâtre, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de gens haut placés en France qui voulaient liquider De Gaulle, qui avait été mis en place aussi deux fois par les Américains, on peut dire une fois en 45, une fois en 58, hein, une fois pour être du côté des gagnants et l'autre fois pour liquider l'Empire, et qui là voulait se débarrasser d'un De Gaulle qui finalement revenait à ses origines maurrassiennes, à sa culture maurrassienne, et les étudiants de 68 n'ont pas été, comment dirais-je, n'avaient pas conscience forcément de ça, mais ont été aidés par des gens à l'intérieur de l'appareil d'État. On a favorisé la chienlit et on s'est servi de ça pour liquider De Gaulle. Et il y a même d'ailleurs des témoignages précis entre des rencontres entre Cohn-Bendit et Missoff père, qui étaient des gens, qui étaient des compagnons de route de De Gaulle, qui n'aimaient pas du tout l'évolution de De Gaulle par rapport aux États-Unis et aussi à Israël, et qui voulaient s'en débarrasser. Et il y a des choses... qui justifie cette théorie qui n'est pas une théorie du complot, mais une théorie des réseaux.
Fait suite peut-être à la conférence de presse de 67.
Ah oui, d'une série d'actes qui voulaient bien dire que De Gaulle voulait échapper totalement à la domination américaine, et surtout quand il prend des décisions fortes, c'est-à-dire demander de sortir du dollar et revenir à l'étalon or, c'est-à-dire il défie les États-Unis violemment. C'est pour ça que quand Castro dit aux jeunes de 70, si vous voulez lutter contre le seul anti-impérialiste sérieux, c'est De Gaulle, il avait raison. Et les 68ards ont liquidé le seul type qui résistait dans le monde occidental à l'impérialisme, enfin dans le camp, on va dire, dans le camp occidental, et ils l'ont liquidé au nom de la lutte anti-impérialiste. C'est pour ça que je crois que De Gaulle a dû être très déprimé une fois qu'il a perdu son référendum, parce que lui, je pense, avait les moyens de comprendre à quel point ces jeunes crétins, quand je parle d'étudiants, c'est parce qu'ils étaient étudiants, parce que les jeunes sont souvent des incultes prétentieux, et effectivement, ils ont liquidé le seul type qui, effectivement, ils ont liquidé le type derrière qui ils auraient dû marcher s'ils avaient compris comment marche réellement le monde dans sa complexité, compte tenu du fait qu'effectivement, leur motivation principale et première était l'anti-impérialisme, la lutte contre l'impérialisme américain. Et pour répondre à cette question sur l'impérialisme.
Monsieur Grandpré, vous aviez un commentaire. En tout cas, il y a un auditeur qui a un commentaire en réaction à ce que vous avez lu tout à l'heure. Vous avez dit que vous ne saviez pas ce qu'était un Français de souche.